Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi.
Les grandes gueules du sport.
Qui ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine.
Il n'y a pas d'autre choix, encore une fois, comme la digitalisation.
Gna gna gna, on s'en fout.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport en ce dimanche matin. Bon réveil à tous, les auditeurs. On est très heureux d'être avec vous, évidemment. Et c'est vrai que le dimanche matin, on est comme Pascal, les dimanches, les fessées, on n'aime pas forcément ça. Vous le savez, cette émission, c'est le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Nous venons de battre un record, encore un record en podcast au mois de septembre. C'est grâce à vous, vous êtes plus d'un demi-million à nous écouter en podcast tous les mois. Bravo mes GG et merci à vous les auditeurs. Au sommaire aujourd'hui, match parfois insipide, petite polémique, retraite de Griezmann. Les Bleus risquent-ils le désamour du public? C'est la une des GG dans quelques instants. C'était l'une des informations de la semaine, la retraite dans un mois de Rafael Nadal. Lui, le grand champion qui vit, vous le savez, un long chemin de croix depuis 2 ans. A-t-il raté sa fin de carrière? On a dit beaucoup de bien de Rafael Nadal hier. On va en dire non pas beaucoup de mal, mais on va être un petit peu piquant ce matin. Ce sera à 10h. Et puis 11h, Tadej Pogacar qui écœure une nouvelle fois ses adversaires et remporte un 4e tour de Lombardie de suite. Les victoires à répétition du Slovène, est-ce forcément une bonne pub pour le cyclisme? Là encore, parce que c'est évidemment l'essence même de cette émission, surtout les débats, vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Sans oublier vos rubriques traditionnelles, il y aura la punchline des GG. Nous parlerons une nouvelle fois du Paris FC, du rachat avec la famille Arnaud. Le zapping, on s'en fout pas, il y aura du Dupont, il y aura du Mbappé. Et évidemment, 11h30, mais là je ne peux rien vous dire, le débat caché. Les grandes gueules du sport ce matin, une très très belle équipe. Je les adore, vraiment je les adore et c'est pour ça que je vais en dire beaucoup de mal. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Pogacar, on l'appelle le poids lourd, Fred Weiss. Salut Fred.
Salut. Mais moi c'est vrai.
Alors que lui c'est une brindille.
Alors
quand même.
C'est une brindille, ouais, clairement.
On est d'accord. T'en manges 4 au petit-déj des Pogacar?
Oui.
Facile. Bah,
petit déjeuner simple.
J'ai l'impression que ça fait longtemps que je t'ai pas bu, Fred. Non, c'était juste la semaine dernière.
C'était la semaine dernière.
Ouais.
Ça me paraît. Je te manque déjà.
Mais oui, ça me paraît très long.
Moi aussi, tu manques.
Une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, a aussi 25 victoires. Bon, bah lui, c'est dans toute sa carrière. Julien Beneteau, salut Julien.
Hey, bonjour tout le monde.
Ça va, Julien?
Ouais, bah, accueilli comme ça, on adore le dimanche matin.
Ça va, mon jus?
Oui, magnifique. Back to back, hein?
Mais oui.
Hier, aujourd'hui, incroyable.
Samedi, dimanche.
Ouais, j'adore.
Ça t'arrive peu, ça?
Très peu.
Tu voudras plus souvent?
On verra.
Mais si tu veux plus souvent, je fais plus souvent, moi.
Ah, tu fais toi.
Attends,
toi le patron.
Les gens disent que c'est moi le patron.
D'accord.
C'est pas vrai. J'aime le faire croire, en tout cas. Non, c'est toujours important de le faire croire. Oh, vous avez entendu sa douce voix, l'homme des fessées, une grande gueule qui, comme Pogacar, on comprend pas toujours la stratégie. Pascal Duprat, salut Pascal.
Oui, bonjour Jean-Christophe. Je savais que t'étais, en présentant tes invités, tu y allais crescendo. Donc tu m'as défoncé, tu m'as gardé pour la fin, comme toujours.
Et même pas.
Merci Jean-Christophe.
Même pas, parce que
bien.
La dernière était pour Cyril Linette. Il arrive dans quelques instants, il est coincé à cause des 20 km de Paris. Alors, je suis un peu déçu parce que j'aimerais lui faire en direct, donc ce sera un petit peu plus tard.
Ouais, nous aussi, on voudrait la faire en direct, donc on la ferme.
Voilà, je vous propose d'attendre un petit peu et on va l'accueillir dans quelques instants. Pascal, très heureux de te retrouver dans le studio RMC. Alors, un magnifique jeu à vous faire gagner aujourd'hui. Vous le savez, cette semaine, les grandes gueules fêtent leurs 20 ans. Toute cette semaine, eh bien, les grandes gueules vous offrent 5000 euros par jour dès que vous allez entendre ce titre de 2004. Et oui, c'était il y a 20 ans.
1, 2, 3, 4.
Eh bien, ce sera le moment de vous inscrire en envoyant GG au 732-16. GG au 732-16. Restez bien à l'écoute. Ça va tomber dans cette émission. Allez, on débute avec cette citation de Mère Teresa qui a dit un jour.
Elle te l'a dit en direct.
Est-ce que tu sais à quoi je pense, Fred, là?
Non. Oui, vas-y, ouais. Malheureusement.
J'espère que tu vas pas faire.
Je peux faire son biopic, ouais.
Oui. Ne fais pas le biopic de Mère Teresa, s'il te plaît. Ne nous enlève pas tous nos espoirs. Évidemment, on rappelle à tous les auditeurs que Fred Weiss a participé au biopic de l'abbé Pierre. Bref, Mère Teresa a dit un jour, le manque d'amour est la plus grande pauvreté.
La une des grandes gueules du sport.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Mais la frappe roulée. La frappe de Griezmann, le contre-pied parfait. Et le but de l'équipe de France.
Complètement débarqué.
Allez, Kylian.
Koundé. C'est fini, c'est fini. La France est éliminée. La France sort de ce tournoi la tête basse, impuissante. Di Marco, la talonnade, Tonali, la frappe et le but de Di Marco. Raspadori, la frappe et le but des Italiens. C'est terminé. L'équipe de France manque totalement sa rentrée.
Ça t'arrive de rêver?
Je suis nostalgique. Depuis le sortir de ma
main. Jeudi, les Bleus battaient Israël et pour la première fois, il n'y avait plus qu'un champion du monde 2018 dans le 11 de départ. C'était Ousmane Dembélé. Les grandes figures sont parties, à l'image d'Antoine Griezmann avec perte et fracas il y a deux semaines. Les idoles font polémique, à l'image de Kylian Mbappé, symbole d'un désintérêt, peut-être que passager. L'audience d'Israël-France, 3,9 millions de téléspectateurs. Pire score depuis France-Bolivie en 2019 et encore, celui-ci était diffusé sur TMC, donc on pouvait comprendre évidemment un peu plus l'audience. La musique qui fout les jetons et cette question. Les Bleus risquent-ils le désamour du public? Oui ou non? Fred Weiss.
Non.
Julien Beneteau.
Hors Coupe du Monde et Euro, oui.
Il y a un oui. Pascal Duprat.
Non.
C'est non. Avant de vous écouter, écoutons un joueur de l'équipe de France, principal concerné évidemment, Matteo Guendouzi, qui était hier en conférence de presse. On lui a parlé de ce possible désintérêt du public. Écoutez sa réponse.
Je l'ai dit, il y a eu pas mal de critiques aussi envers l'équipe de France, mais il faut pas oublier que toutes les dernières compétitions, il y a quand même demi-finale de l'Euro, finale de la Coupe du Monde. Après, si l'équipe de France est un peu moins regardée ou pas, franchement, j'en sais rien du tout. Moi, en tout cas, j'ai pas mal d'amis qui continuent de la regarder, donc par rapport à ça, ça change pas. Mais voilà, il y a toujours des critiques. En tant que footballeur, on essaie de faire abstraction de tout ça parce que nous, on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes, de mettre l'équipe de France au plus haut et on continuera de le faire. Que ça plaise à certaines personnes ou que ça plaise pas, nous, on sait ce qu'on doit faire sur le terrain et on essaie d'être le meilleur possible pour la France.
Et ben voilà, pas forcément de désintérêt du public pour Matteo Guendouzi. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Les Bleus risquent-ils le désamour du public? Et nous accueillons Cyril Linette pour son grand retour. Salut Cyril, ça va?
Je suis vraiment désolé Jean-Christophe, c'est pas une panne de réveil, c'est une panne de conducteur.
Et puis les 20 kilomètres de Paris aussi, qui bougent?
Ça bouge un peu, non c'est pas ça, je me suis trompé. Bref,
il n'y a pas d'excuse. C'est pas, en plus,
pas d'excuse, désolé, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà. On est ravis de retrouver Cyril quand même dans cette
évidemment.
Émission.
Cyril, t'arrives quand tu veux.
J'ai été à sa place et à la place de Maxime qui est en régie. Vraiment, voilà, toutes mes
alors,
confuses.
Alors nous, c'était dommage parce qu'on va débuter le débat dans quelques instants, mais juste nous faire ta présentation quand même, parce qu'on parlait de Tadej Pogacar dans les présentations et franchement, la sienne était la meilleure, donc je ne résiste pas. Donc une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, on connaissait déjà l'issue. Cyril Linette est avec nous.
Pas la même.
Il a fait la même avec moi hier, je te rassure.
Dans cette émission.
Ouais, finale de Nadal.
J'ai l'impression que Julien et Cyril, il y aura un axe aujourd'hui.
Ouais. J'ai vu sur les avis. Ouais.
Les Bleus risquent-ils le désamour du public? On débute ce débat, Fred Weiss.
Oui, non. J'étais surpris. Ça m'a un peu retourné le fait que Cyril arrive en retard comme ça. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était hyper ponctuel. Ça me surprend. Bon, donc, il faut que je me remette un petit peu dans l'émission. Concrètement, non. Le foot, on aime ça, on adore ça. Évidemment qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Ce moment est un peu difficile parce que on critique beaucoup le sélectionneur, parce que tout le monde parle de Zidane, parce que les Griezmann et les anciens de la Coupe du Monde sont absents, parce que Mbappé fait parler de lui. J'ai aussi l'impression un peu que le contexte Israël, le contexte géopolitique peut jouer aussi en la défaveur de ce match que personne n'a regardé. Et une compétition en bois, faut pas l'oublier, c'est une compétition en bois, la Coupe des Nations. Donc moi je pense que, comme Julien qui finalement je pense est de notre avis, même s'il ne veut pas s'avouer, en Coupe du Monde et en Championnat d'Europe, il y aura aucun problème, on va revenir à la normalité et on va être super fiers, super heureux d'être supporters de cette équipe de France.
Ça tu le signes tout de suite ça.
Je signe tout de suite, sans aucun problème.
Euro, Coupe du Monde, c'est ce que je dis. Après, un désintérêt, un désamour, un désintérêt entre ces périodes de grandes compétitions, je pense qu'il est en train d'arriver pour plusieurs raisons. L'audience l'a prouvé et c'est pas parce que c'est Israël ou quoi que ce soit. À titre de comparaison, France-Japon au rugby il y a 2 ans au mois de novembre, c'est pas les All Blacks, c'est pas l'Afrique du Sud. Hein. Ça fait 4,5 millions ou 5 millions sur France 2 et pas sur TF1.
Donc tu penses que le contexte géopolitique actuellement avec Israël n'a pas du tout influencé le fait que personne ne regarde.
C'est peut-être un des facteurs, mais on va pas s'attendre
sur ça.
À la place d'Israël-France, c'était Bulgarie-France, le même match en Ligue des Nations, le même soir sur la même chaîne, ça aurait fait la même audience. Je pense que les gens peuvent en commencer à en avoir marre qu'on parle de Mbappé tous les jours pour pas des raisons sportives. Je pense que les joueurs, que les gens peuvent en avoir marre du fashion show à l'arrivée à Clairefontaine.
Ah ouais, tu trouves toi ?
Ouais. Je pense que pour l'instant, Mbappé, Griezmann, Giroud, pour Colomoini, Olise et Dembélé, c'est compliqué de prendre la place.
Ça peut pas justifier le désamour.
C'est pas le fait qu'on les aime plus.
Je ne dis pas ça. Je pense que attention, il peut y avoir un petit désintérêt.
En fait, le désamour, c'est du lobbying, tout simplement. Le désamour, c'est le lobbying parce que tout le monde rêve, moi le premier, que Zidane soit le sélectionneur de l'équipe de France. Donc ça part de là, le désamour. C'est-à-dire qu'on défonce des gens à tour de bras. Je suis désolé, messieurs, on dit que l'équipe de France est ennuyeuse à chaque fois, mais ennuyeuse, mais souvent gagnante, oui, quoi qu'on en dise.
Et
ennuyeuse, pas tant que ça. Si on veut bien observer le football, l'observer dans son sens large, le football aujourd'hui, c'est beaucoup de stratégie, partout. Même Manchester City, on s'emmerde quelquefois. Oui. Donc, il faut bien dire qu'on fait du lobbying. Il faut dire aussi qu'Mbappé, il nous fatigue, ok? Il fatigue tout
alors,
le monde.
Désamour pour Mbappé, et
si vous voulez, Mbappé, le problème, oui, c'est comme il est extrêmement talentueux, il va bientôt terminer de nous fatiguer et tout le monde va s'enthousiasmer. Attendez simplement 2025, tirage au sort pour la Coupe du Monde 2026, les éliminatoires. Et puis, on en reparle. Là, c'est des matchs d'enfants que l'on voit. Mais
c'est ce qu'on dit.
Ok, donc tu prends ça avec Deschamps et avec Kylian Mbappé en parlant du désamour, si j'ai bien compris. Cyril Linette.
Oui, ça dépend évidemment. C'est toujours des cycles et ça dépend des résultats. On n'est pas à l'abri quand même que l'équipe de France rentre dans un cycle de résultats plus négatif. Et il ne faut pas oublier quand même que les audiences de l'Euro, de l'équipe de France, on parle de l'Euro et de la Coupe du Monde, ont été très décevantes, bien moindres que lors des dernières compétitions. Moi, je pense qu'il y a deux raisons. Il y a des raisons sportives. Griezmann, qui était sans doute le joueur le plus fédérateur, qui s'en va, qui était un peu le symbole de la reconstruction de l'image de l'équipe de France, qui a déjà connu ça. Entre Naïsna et 2014, il y a quand même eu 4-5 ans, ça n'a pas duré 6 mois, de vrais désamours. Et puis, bien sûr, ça revient. Donc, Griezmann qui part, Mbappé, en effet, aujourd'hui, dont on se demande où il en est, et puis une espèce de lassitude par rapport à Didier Deschamps, très bien décrite par Pascal. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un contexte hors foot, hors sport, qui est, parce qu'on parle du rugby, mais le rugby, il est toujours à part, il peut se passer n'importe quoi, en France ou dans le rugby, il y aura toujours du monde pour regarder le rugby. Le foot, on le dit toujours, c'est le reflet de la société. On parle d'équipe de France. Est-ce que la France, aujourd'hui, forme une équipe ? Moi, j'en suis pas sûr, globalement. Donc, je pense que le contexte d'un match contre Israël a joué. Comme je pense que les prises de position des joueurs de l'équipe de France, très fortes, pendant les élections, contre le Rassemblement National, ont mis à distance l'équipe de France d'un certain nombre d'électeurs du Rassemblement National. Comme je pense que le fait que des gens de gauche estiment aujourd'hui que l'élection de la dissolution leur a été volée, et quand on sait la proximité entre le président de la République et Kylian Mbappé et l'équipe de France, ça joue aussi. Il y a quelque chose. On demande à l'équipe de France de foot depuis toujours de servir de lien à la nation. La nation n'est pas liée aujourd'hui. Elle est fracturée. On ne forme pas une équipe. Et je suis pas surprise que ce soit sur l'équipe de France de foot, avant tout que ça tombe. Alors ça peut changer, il faut des bons résultats, il faut des choses.
Mais quand tu dis que l'équipe de France ne forme pas une équipe.
Un petit peu de bons résultats, ça ira sans problème. Oui. Et Mbappé, moi je pense qu'au contraire, ça peut devenir une tête de Turc. On continuera à aimer l'équipe de France, mais on aimera de moins en moins qu'il y en ait Mbappé.
Parce que l'équipe de France de foot, elle est chargée de régler les problèmes. Quand en 98, elle règle les problèmes d'intégration parce qu'elle gagne la Coupe du Monde. Mais elle peut aussi être l'exutoire d'une France aujourd'hui qui va pas bien, d'une France qui grogne, où tout le monde s'engueule toute la journée. Avec quel meilleur vecteur que l'équipe de France.
Je comprends davantage, Cyril, quand tu dis que l'équipe de France ne forme pas une équipe, tu parles de l'équipe de France qui ne fait pas l'osmose. C'est ce que tu veux dire.
Je veux dire le pays France ne forme pas une équipe. Comment veux-tu que dans un pays qui ne forme pas une équipe, on puisse complètement se rassembler derrière l'équipe de France?
Pour autant, le pays France ne forme pas une équipe.
C'est les deux. Oui, mais c'est à ça que sert le sport, à se rassembler quand c'est compliqué.
Mais pour autant,
le foot est le meilleur vecteur pour ça.
Tout le monde a vanté, comment dire, le succès des Jeux Olympiques, notamment du soutien des supporters français aux athlètes olympiques français. Donc, pourtant, le pays était aussi fracturé de moins qu'ils ne l'est aujourd'hui.
Parce qu'ils ont une image gentille, parce que c'est une image positive du sport. À partir du moment où l'équipe de France de foot bascule dans le négatif, avec les avec Mbappé, tout ça, ça devient
négatif. Si, Pascal, en fait, tu donnes de l'eau à mon moulin, c'est que on va comparer un petit peu l'équipe de France olympique dans son ensemble. Le rugby, pourquoi le rugby est populaire? Là, ils ont eu un été catastrophique. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir les audiences qu'ils vont faire au mois de novembre.
Ça passe tout seul.
Ça va passer.
Toujours.
Parce que Dupont, capitaine, qu'est-ce qu'il renvoie Dupont? Il revient hier en 20 minutes, il fait un triplé. Il parle pas de lui. Il parle des autres. Il va aux États-Unis pour s'entraîner avec la NFL. Il fait pas des cagoleries à droite, à gauche. Il parle que des autres. Il se met jamais en avant.
Certains pourraient dire qu'il se perd, justement, Dupont, hein. En allant jouer avec, en A7.
Il se perd pas.
Il est champion olympique. Son président de club dit, mais il faut lui dire merci. Bref, il est capitaine, il transpire ça. Mbappé, aujourd'hui, il est capitaine de l'équipe de France et il transpire autre chose qui peut déteindre.
Il transpire pas beaucoup. Hein.
Exactement.
Et qui
peut déteindre sur le reste de l'équipe, sur l'image que le reste de l'équipe peut renvoyer, malgré elle. Parce que c'est le capitaine et que c'est
donc en fait, tu reviens à dire que c'est de la faute de Didier Deschamps. Il l'a nommé capitaine, c'est ça? Allez, c'est de la faute de Didier.
Je pense que sans Didier Deschamps, ce serait bien pire.
Pascal vous attaque parce que Pascal, dans cette émission, c'est dans son contrat d'ailleurs, il défend toujours Didier Deschamps.
Moi aussi, je suis premier défenseur de Deschamps.
Il vous reproche
tous beaucoup,
d'être contre Didier Deschamps. Donc on va en reparler dans quelques instants. On continue le débat sur l'équipe de France avec les GG. 9h28, vous écoutez RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Dupraz, Cyril Linette, Julien Beneteau, Fred Weiss à partir de 9h40. Restez bien avec nous, le zapping des GG, on s'en fout pas avec beaucoup d'informations à vous donner. Une information politique aussi, hein. Par exemple, le budget des sports en baisse de 268 millions d'euros, vous me direz si ça vous intéresse ou non. Mais restons un instant sur notre débat qui concerne l'équipe de France. Demain, il y aura un autre match de Ligue des Nations, ce sera en Belgique. Belgique-France, évidemment, à suivre sur RMC. Notre débat ce matin, est-ce que notre équipe de France pourrait se couper du public? Est-ce qu'il pourrait y avoir un désamour? Je vous propose d'écouter Didier Deschamps. C'était durant l'Euro, ça dure quelques secondes quand on lui disait, et d'ailleurs Antoine Griezmann ne s'en était pas caché en conférence de presse, que le jeu des Bleus était, pardonnez-moi, je me laverai la bouche ensuite, un peu chiant. Voici ce que disait Didier Deschamps.
Je pense que si les gens ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne, hein, c'est plus facile à la maison, quoi.
Est-ce que sur ce genre de déclaration, est-ce que ça fait pas un peu de mal à cette équipe de France comme passeur d'émotions, l'entraîneur là?
Non, mais là Didier Deschamps, là c'est une des rares fois il me déçoit en fait, parce qu'il fait comme les joueurs de l'équipe de France. En fait, les joueurs déteignent sur lui, c'est dommage. Parce que je ne dois jamais dire ça en tant que sélectionneur. À la limite, il s'en fout qu'on le regarde le match. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est affreux comme déclaration, parce que justement, c'est le public qu'il fait vivre, c'est le public qu'il doit animer. Et justement, pour qu'il n'y ait pas ce désamour, il doit communiquer avec le public, expliquer c'est le jeu qu'on pratique. Grâce à ça, on a réussi à avoir des résultats, ouais, avoir un langage un petit peu langue de bois.
Ça fait 10 ans qu'il l'explique.
Oui, mais sauf que tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire. En gros, tu es en train de dire j'aime pas, tu changes de chaîne, on s'en fout, parce que nous, on n'a pas besoin de toi pour vivre. C'est un petit peu plus compliqué que ça.
Je suis d'accord. Il peut pas dire ça, mais là il faut reprendre le contexte. C'est à la fin de la compétition.
Non, c'est pendant la compétition. C'est avant le troisième match de la compétition. Les deux premiers matchs avaient été poussifs.
Il sort une finale de Coupe du Monde. Il sort de tout. Et il a toujours des critiques.
C'est son job. Il est payé pour ça. Il doit répondre aux critiques.
Bon, au bout d'un moment, les consultants, les journalistes, les trucs,
d'ailleurs, c'est plus que des critiques, voilà. En fait. C'est un lynchage permanent.
On a déjà fait ce débat ici l'année dernière ou quoi que ce soit. Enfin,
t'es en train de dire qu'on refait des débats?
Non,
dans cette émission,
on se trompe complètement. Enfin, je veux dire, je crois qu'on est utopique de croire que si Zinedine Zidane est sélectionneur, tout d'un coup, on va jouer, il va y avoir une touche de balle, des dédoublements, des centres en retrait, des frappes dans la lucarne, etc. C'est un football
dans la lucarne du mauvais pied, en plus.
Ouais, exactement. C'est un football de sélection où les gars arrivent, sont cramés par les clubs, Ils ont trois jours, les entraîneurs ont trois jours de préparation pour faire des matchs sans enjeu, et on pense que ça va être monstrueux. Non, mais
Julien, la question n'est pas là. Qu'il ait des critiques, c'est un peu son job de sélectionneur d'avoir des critiques. Alors, effectivement, ouais, elles sont beaucoup trop nombreuses, et on a tous envie que Zidane arrive. Enfin, en tous les cas, les médias et la plupart des gens dans le milieu du foot ont envie qu'il arrive. Sauf qu'à un moment, en tant que sélectionneur.
Jean-Christophe, il a envie qu'il arrive.
On n'a pas le droit, en tant que sélectionneur, de encore une fois, on parlait de
ce coup des
il n'a pas le droit de se couper des supporters. Bah, les supporters qui sont là, qui applaudissent. Tu n'as pas le droit de faire ça.
Didier Deschamps s'est un peu coupé des supporters.
C'est possible, et en tout cas, il a un patron, soit le président de la fédération, et c'est à lui, effectivement, de reprendre le manche et de reprendre les sujets en main sur ces sujets-là, les sujets d'image, les sujets de comportement des joueurs, les sujets d'arrivée à Clairefontaine et même de la communication de son entraîneur. Il a un patron, Didier Deschamps, me semble-t'il. Je vous racontais
l'ambition d'être patron de la fédé.
Non, je ne serai pas, je l'ai dit, pas du tout. Je ne le serai pas.
J'aime bien les instances du football français.
J'étais très clair. Non, mais il ne faut pas confondre. J'étais très clair là-dessus. Je ne le serai pas. Je ne serai pas. Mais mes convictions, elles demeurent malgré tout. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais patron des sports de Canal, avant la Coupe du Monde 2010, la situation était catastrophique pour le football français. Avant la Coupe du Monde, on y avait vraiment les pieds. C'était la catastrophe. C'était Raymond Domenech. Il était décrédibilisé après l'Euro 2008, sa demande en mariage, et ainsi de suite. Et je ne vise personne. C'est juste l'anecdote. Je discute avec Frédéric Thirier quelques mois avant la Coupe du Monde, et je lui dis mais
alors le patron de la Ligue.
Et je lui dis mais la Ligue, la Fédé, ainsi de suite. On parle avec Frédéric et je lui dis mais Frédéric, on va à la Coupe du Monde avec Raymond, avec quand même globalement un manager qui entre guillemets désavoué par une grande partie de l'opinion publique et de ses propres joueurs, parce que ça partait dans tous les sens. Je compare pas avec Deschamps, c'est juste pour raconter quand on prend pas une décision. Et Frédéric me dit ça, c'est avant la Coupe du Monde. Il me dit bah oui, on y va avec Raymond, on sait que ça va pas marcher, mais bon, au mois d'août on change, on met Laurent Blanc et tout ira mieux. Et ben un mois après il y a Nice-Na. Et donc quand on ne prend pas une décision, je dis pas qu'à l'époque, en tout cas, on ne devait pas aller à la Coupe du Monde 2010 avec Raymond Domenech dans l'état de sa relation avec le reste de l'équipe, avec son management et avec l'opinion publique et avec les médias. Il aurait fallu être beaucoup plus prudent parce qu'on s'est cogné Nice-Na et après on a mis 4-5 ans à remonter la pente. Là, si la dérive venait à continuer, des amours, résultats, type de jeu, comportement des joueurs, façon Mbappé, je fais ce que je veux, Griezmann dont les conditions du départ sont pas complètement claires. Si on continue, comme souvent dans les fédés, à dire, je mets tout ça sous le tapis, ça va s'arranger de soi-même. Dans la vie, ça ne s'arrange jamais de soi-même. Faut prendre les choses en main.
Il y a un moment donné. Si tu bouges pas, tu t'aggraves la situation, en fait. Effectivement, il faut un vrai patron.
Ça ne fait qu'aggraver. À un moment donné, c'est quelques messages pour dire, voilà, faut qu'on reprenne un peu les choses en main. On a une belle équipe, il y a un changement de génération. Les supporters doivent comprendre qu'on peut pas toujours gagner, mais il y a ça, en termes de valeur et de fonctionnement.
Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas, justement? Parce qu'en fait, on a l'impression que tout le monde le voit, tout le monde s'en rend compte. Pourquoi le président?
Déjà, il faudrait savoir, pour essayer de comparer, même si je sais qu'évidemment, Cyril, tu ne comparais pas les deux sélectionneurs, mais savoir s'il a un peu perdu la main. Est-ce que toi, Pascal, tu sens ça? Ou alors c'est juste des reproches du public, des médias, mais qu'il ne perd pas la main?
Peut-être qu'il s'exaspère parce qu'il se fait déglinguer en permanence. Il faut aussi se mettre à sa place, ça doit être difficile. Et ça doit être difficile par rapport à ce qu'il doit dégager devant ses joueurs. Les joueurs, ils lisent aussi, ils entendent tout ce qui se dit sur Deschamps. Donc à force, ça commence aussi certainement à faire le chemin dans leurs esprits respectifs. Ils ont peut-être aussi, je dis bien peut-être, j'emploie le conditionnel, envie de voir ce changement-là, puisque on le cite tous les jours. Chaque fois qu'on parle de Deschamps, on nous parle de la volonté unanime de le voir remplacer. Donc tout ça, ça doit être quand même compliqué. Et Didier Deschamps, il n'a pas perdu la main parce qu'il fait très bien son boulot. Les générations, elles passent. Il est toujours là, il obtient toujours des résultats. On l'oublie trop. Et on s'apercevra le jour où on ne gagnera pas.
Évidemment.
Sans lui, on s'apercevra qu'il n'était pas si mal, le garçon.
On aura bien joué, on aura perdu en quart, on aura fait deux barres, on aura bien joué comme en 82, comme en 86. Mais on ne gagnera plus.
Ok, il nous renvoie de vieux souvenirs, évidemment, cruels souvenirs. Merci. Le désamour du public. Il y a Pierre qui nous appelle au 32-16. Bonjour Pierre.
Bonjour les gars.
Bonjour.
Alors Pierre, est-ce que les Bleus risquent le désamour?
Ouais, moi j'en suis quasi persuadé, c'est un peu fort, mais en tout cas j'en ai vraiment le ressentiment en ce moment. Je vais reprendre les mots de Julien Beneteau là, qui parle de problème d'identification. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand je vois une arrivée à Clairefontaine, où c'est la première information qu'on a du Rassemblement des Bleus, c'est de savoir qui est habillé comment, et encore je parle même pas des tenues. je me demande, mais dans quel monde on vit, quoi. C'est l'individualisation, pardon, possible. Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Je pense qu'on est toute une génération qui a beaucoup de mal à vivre avec ça. Vous parliez aussi des prises de position politiques. Là, le sujet est un peu plus tendu parce qu'à mon avis, je pense qu'ils ont tout leur rôle là-dedans, bien que ça leur porte préjudice. Et puis, je pousserai même un petit peu plus loin. Moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est quelle image on laisse aux petits qui sont censés s'identifier à ces gamins-là, en fait. Moi, c'est vraiment ce qui me fait mal. Donc, j'ai vraiment l'impression que notre génération à nous s'en détache de plus en plus. Oui. Et que ça va faire aussi encore plus mal à la jeune génération qui va s'identifier à des mecs comme ça, quoi.
Je m'attarde sur le plus léger, les GG. Il y a deux choses. Déjà, il y a cette histoire de la Fashion Week, là, en rassemblement. Bon, j'ai l'impression qu'on prend ça un peu trop au sérieux. C'est-à-dire qu'on s'en moque un peu. En NBA, ça nous fait tous marrer de voir les Américains arriver comme ça. Et en équipe de France, bah, ça doit pas se faire. Ça vous a choqué ou pas?
Moi, ça m'a choqué, la cagoule. Enfin, je sais pas. Oh,
NBA, c'est n'importe quoi. NBA, c'est leur club, etc. L'équipe de France, c'est la France, c'est l'équipe de France, c'est le.
Quand ils sont avec Team USA, ils sont pas habillés comme ça. Ils sont pas habillés comme ça. Ils respectent le maillot, ils respectent leur pays, leur sélection. Ça n'a rien à voir.
Ah, carrément, on va sur le manque de respect.
Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a vraiment des codes en NBA qui te permettent d'arriver quand tu es en club, comme tu veux. Sauf que quand tu arrives en sélection, il y a un dress code et tu respectes ce dress code.
Ok, rapidement sur ce sujet, là, Cyril, le président doit dire on arrête.
Ouais, pour moi, le président doit dire on arrête. Effectivement, c'est quand même pas très compliqué. C'est à lui de le faire. Didier peut pas tout faire. C'est à lui de le faire. De dire voilà, je le souhaite. C'est sa position de patron.
Jean-Christophe, je peux te poser une question? Prochaine émission, on peut venir en cagoulé?
Ben, moi, ça me dérange pas.
Ça te dérange pas?
Bah, okay. On parlera
tous en cagoulé dimanche.
Très bien. Et puis, on se verra aussi le samedi soir. C'est... Les soirées cagoulées, tout ça, ça peut être sympa.
Bien. Ce serait très symbolique. Mais c'est pour ça que c'est parce que c'est symbolique que c'est important.
Ok. Et une dernière question, toi qui as adoré, en tant que footeux, Pascal, les Jeux Olympiques. Est-ce que, et vous l'avez cité d'ailleurs, on s'est pas attardé dessus. Je crois que c'est Julien. Est-ce qu'à un moment donné, les Jeux Olympiques, quand on a vu cette ferveur, ces champions, ces sportifs hyper accessibles, là, l'équipe de France est en train de lui faire mal maintenant.
Non, mais ça, c'est mais on est en train de jouer la Ligue des Nations. Tu compares la Ligue des Nations avec les Jeux Olympiques. Oui. Attendez un tout petit peu qu'il y ait des matchs en jeu et vous verrez que vous allez tous revenir à de meilleurs sentiments.
Il y a raison, Pascal.
C'était juste pour réénerver Pascal.
Ah, j'ai été
envie de leur piquer, me parler de soirée cagoule et tout ça. J'aime pas ces propositions. Merci Pierre d'avoir été avec nous au 32-16. Restez bien avec nous. Il est 9h41. On se retrouve dans quelques instants. Le zapping des GG. Tiens, encore un mot sur l'équipe de France avec les Bleus qui ont réagi hier en conférence de presse sur la virée, l'escapade suédoise de Kylian Mbappé. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h45 de retour dans les grandes gueules avec Pascal Dupraz, Cyril Linette, Fred Weiss, Julien Beneteau. Restez avec nous. On va parler de nouveau de Raphaël Nadal. Hier, on se posait une question cruciale. On se demandait si 14 Roland-Garros, c'était le plus grand exploit de l'histoire du sport. Mais aujourd'hui, on va se demander si Raphaël Nadal n'a pas raté la fin de sa carrière avec 2 ans, voire 3 ans de galère pour lui. Ce sera le bras de fer dans quelques instants. Il y aura aussi le « on s'en fout pas ». Mais sachez-le, dans une heure, les grandes gueules, vous allez prendre le pouvoir de cette émission. Vous pouvez prendre les commandes en nous proposant un débat soumis au vote dans quelques instants, avant votre mini-exposé. Et ensuite, eh bien, c'est au peuple des grandes gueules du sport de voter sur le compte X des GG du sport. Votre proposition, Fred Weiss, tu vas pas encore nous embêter avec du basket quand même.
Non, tu me connais pas du tout. Je pensais parler de Vincent Collet.
Oh.
Ah, c'est à main, c'est du basket aussi, désolé. Non, simplement, Vincent Collet est devenu consultant spécial pour la NBA et pour les Cleveland Cavaliers. Et je me dis, est-ce qu'un coach français peut vraiment s'imposer en NBA ?
Peut réussir en NBA ?
Est-ce qu'il peut réussir ? Est-ce qu'il peut s'imposer ?
Tu sais quoi ?
Trouver un taf ?
Tu sais que c'est un très bon débat. Ouais, je pensais pas sur le basket, mais c'est un très bon débat. Bravo, mon cher Fred. Vous pouvez voter pour Fred. Pascal Dupraz.
Oui, c'est vrai que Fred, c'est un très bon débat, mais le mien est meilleur. Je parle de football, ça vous dérange pas ? Donc, apparemment, Tchouaméni a été nommé capitaine en l'absence de Kylian Mbappé. Et je me pose cette question, je vous la pose aussi, j'aimerais qu'on débatte. Est-ce que Didier Deschamps doit l'installer plus durablement à ce poste de capitaine de l'équipe de France?
Ok, et donc le taquin, et donc retirer le brassard à quelqu'un. Ok.
Ah bon, on peut pas avoir 2 capitaines sur le terrain.
Je ne pense pas. Merci Pascal. Julien Beneteau, on propose quoi aujourd'hui?
On va parler de football aussi. Une des légendes du football a pris sa retraite cette semaine, Andrés Iniesta, qui pour moi était vraiment le symbole de ce que doit être le football. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or en 2010. Et dans une interview, il a dévoilé ses grandes ambitions pour devenir entraîneur. Et je me pose la question, est-ce que fera-t-il forcément un grand entraîneur? Et je veux prendre comme exemple un peu son acolyte du milieu de terrain du Barça, Xavi, qui a eu quelques échecs malheureusement. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter et plutôt suivre Guardiola que Xavi?
Ok, il choisit le foot pour tenter de gagner. Belle performance, Julien Benedetto. Cyril Linette, la proposition.
Foot et basket. J'ai toujours pensé toute ma vie que le foot était indétrônable. Et je prolonge le sujet précédent, mais en l'amplifiant. Parce qu'au niveau européen, je pense qu'il y a un ras-le-bol actuellement sur le foot. Et je pense que c'est assez profond. Je l'entends partout. Je l'entends dans ma génération. Je l'entends dans la génération de mon fils qui a 23 ans. Et même les plus petits, j'ai des enfants de tous âges. Je l'entends partout, en fait. Le foot est un peu à distance. Les audiences baissent partout. Les droits baissent partout. Les matchs sont invisibles. Il y en a trop. Il y a beaucoup de choses. Et les valeurs sont pas bonnes. Les valeurs sont pas bonnes. L'agressivité, la violence, le racisme. Ça reste ignorant. Quand même, malheureusement. Et je me demande si, par exemple, la NBA, en venant s'installer en Europe, est pas capable, en produisant des matchs en prime time, et pas à 4 heures du matin, est pas capable de ramasser la mise,
au moins, Cyril, hein.
Sur une partie de la génération.
De déloger le foot, c'est la proposition.
En tout cas, de prendre une place beaucoup plus importante qu'aujourd'hui.
Moi, j'aime bien ce débat-là.
Moi aussi,
j'aime bien. Je préfère faire gagner Cyril. Mais arrêtez. Soyez bien. Soit convaincu d'Iniesta, soit convaincu de Xavi. Ne sois pas convaincu de Vincent.
Moi, je suis hyper convaincu pour
ça. Allez, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. On va poursuivre sur l'équipe de France avec cette première information. Les Bleus qui réagissent à la virée suédoise de Kylian Mbappé. On s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Pascal Duprat.
On s'en fout.
J'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Hein. Mais t'as le droit, c'est stratégique.
Moi, je m'en fous, parce que c'est de la com.
Ok, alors hier, à deux jours d'affronter la Belgique en Ligue des Nations, Wesley Fofana et Matteo Guendouzi se sont présentés en conférence de presse. Bien joué la com des Bleus d'avoir choisi deux cadors pour parler de Kylian Mbappé. Évidemment, ils ont été invités à réagir à l'escapade de leur capitaine à Stockholm le soir d'Israël-France. On les écoute.
Nous, il y a aucun doute par rapport à Kylian. On l'a eu au téléphone encore avant le match. On l'a par message. C'est quelqu'un qui est attaché à nous, attaché à l'équipe de France. C'est un joueur qui aime son pays. C'est un joueur qui aime cette équipe et qui continuera à nous aider à la ramener au plus haut niveau et j'espère le plus haut possible. Mais en tout cas, vraiment, faut arrêter de trop en parler parce que vous vivez de ça aussi de parler de lui tous les jours. Après, il a des jours de repos. Il fait ce que bon lui semble pendant ses jours de repos. Mais en tout cas, faut vraiment pas se poser des questions avec l'attachement de Kylian avec l'équipe de France parce que cette question ne devrait même pas se poser de par ce qu'il a fait pour l'équipe de France, ce qu'il continue à faire et de ce qu'il fera encore dans le futur pour nous.
Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre, mais après aujourd'hui ça n'a pas été une source de discussion. J'ai pas entendu parler de cette histoire. Après pour l'histoire de Kylian, il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon. Il gère sa carrière comme il entend, c'est un grand professionnel. Il n'y a rien d'autre à dire.
Il n'y a rien d'autre à dire, c'était Guendouzi d'abord, puis Fofana ensuite. Fred Weiss.
Je suis partagé parce que d'un côté, on dit justement qu'il n'y a pas d'équipe de France, qu'on n'est pas solidaire, mais on sait que c'est de la com, évidemment. Mais la com est bonne, en tout cas, par rapport aux joueurs. Mais de l'autre côté, Kylian Mbappé, il fait absolument n'importe quoi, là. Tu peux pas sortir en boîte quand t'as l'équipe de France qui est en train de jouer. Tu peux pas sortir en boîte quand t'as été aligné avec le Real Madrid, que t'es censé être resté à Madrid pour travailler, pour te reposer, pour soigner tes blessures et aller en boîte. Ça, tu peux pas le faire. Donc, je suis très partagé. J'ai envie de dire que la com l'emporte parce que c'est important de rester solidaire. Mais dans l'absolu, Kylian Mbappé, n'importe quoi.
Cyril, on a décrit des difficultés de management. Moi, je pense qu'en effet, l'équipe de France doit être plus dirigée et pas simplement par son sélectionneur. Mais je pense que Didier, évidemment, a passé les messages. C'est bien de choisir des joueurs qui vont tenir ce type de propos qui sont totalement lénifiants. On est bien d'accord. Et pas de prendre des joueurs qui auraient peut-être été un peu plus piquants ou auraient laissé une allusion un peu derrière eux. Je pense que dans un moment comme ça, faut que tout le monde soit, entre guillemets, aligné et solidaire. Les choses doivent se régler dans la cuisine. Donc, moi, je pense que c'est pour le coup une communication peut-être un peu décevante pour nous, mais qui est logique et qui montre que le sujet a été au minimum managé en équipe de France.
Oui, parce que c'est vrai que si Mac Maignan se présente en conférence de presse, voilà, sort une bombe, il est possible qu'on fasse un débat directement aujourd'hui dans l'émission, que je change encore une fois votre conducteur.
C'est plus amusant, mais ça voudrait dire qu'il y a un vrai malaise. Donc là, ça a été plutôt bien géré.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le budget des sports en baisse de beaucoup, hein, 268 millions d'euros. On s'en fout pas, Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Ok, Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Alors, Julien Beneteau, Cyril Linette.
On s'en fout pas.
Alors, le Premier ministre Michel Barnier présentait, vous le savez, cette semaine, son projet de loi finance devant le Conseil des ministres et dans un contexte difficile et de déficit des comptes publics. Le budget du ministère des Sports doit être raboté de 268 millions d'euros. Mais ce que l'on nous dit auprès du ministère, qui ne remet pas en cause
les ambitions.
Les ambitions. On explique qu'une partie de ce chiffre est due à la fin des dépenses liées aux Jeux Olympiques et à des ajustements. Je ne vais pas vous perdre dans les chiffres, mais déjà une première sensation. Julien, je sens que ça tient à cœur.
Oui, ça devait être un des héritages que les Jeux Olympiques de Paris devaient laisser. C'est incroyable que le premier budget post-olympique, quand on a vu la ferveur qu'il y a eu en France, soit à la base de 260 millions, quel que soit l'état des finances du pays. On nous rabâche les
3 000 milliards de déficit.
Mais ça doit
3 000 milliards et plus.
Oui, mais ça
non, pas peu importe le déficit. Si tu rabotes aussi le sport. Enfin.
Oui, mais pas de cette manière-là. Et le sport doit être une priorité. On nous fait croire que à l'école, il faut faire du sport, que les enfants doivent avoir accès au sport, que le sport réunit, ils le voient pendant les Jeux Olympiques, pendant les Coupes du Monde de foot, pendant les Coupes du Monde de rugby. Le seul moment où le pays est uni, devant le poste de télé, dans les rues, dans les cafés, c'est quand il y a un grand événement sportif.
Julien, sur le principe, moi je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai lu un excellent article qui disait que en gros l'argent qui est le différentiel, c'était ce qui était alloué aux Jeux Olympiques particuliers.
Pas seulement. Sur 260 millions, il y a 110 millions de brut.
Oui,
150 millions qui étaient liés aux Jeux
Olympiques. Donc il y a quand même déjà une partie qui était allouée à
disons que c'est pas une baisse de 25%, c'est une baisse de 12%.
Exactement. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors je suis d'accord avec toi. J'aurais souhaité que ça continue sur le même budget, évidemment, et évidemment qu'on a rêvé. Et évidemment qu'on souhaitait un héritage, sauf que concrètement, comme Cyril vient de le dire, c'est pas exactement 25%, c'est un petit peu moins, et il y a une partie qui est explicable.
Alors justement, j'ai quand même regardé en détail, parce que je passe de très bons week-ends, mais surtout pour vous apporter aussi un chiffre, parce que c'est important quand même. Les moyens des établissements publics liés au haut niveau progressent. Krebs, INSEP, les écoles nationales verront leurs moyens augmenter de 4 millions. C'est que 4 millions, c'est 146 contre 142. Donc voilà, tout ne baisse pas partout, et ça c'était un des piliers, en tout cas, cette formation qui nous tenait à cœur. Cyril Linette.
Sur ce sujet. Non, mais je pense qu'il n'y a pas le choix. De toute façon, il faut chercher des économies partout. Malheureusement, on peut déplorer le déficit d'anticipation, notamment lié à l'afflux des licenciés post-JO, qui visiblement n'a pas complètement été prévu dans les clubs. Bon, ça, malheureusement, c'est assez classique dans le terme de politique publique en France. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix. Il faut accepter, malheureusement pour le sport, mais toutes les industries sont soumises à un régime à peu près identique. Donc c'est décevant, mais ça n'est pas complètement farfelu compte tenu du contexte.
Personnel, merci, ou tu veux y aller?
Non, mais bon, même les retraités vont devoir se serrer la ceinture.
Je sais, Christophe,
il nous en a parlé hier. Les politiques, ils ont prévu quelque chose.
En attendant, le budget du Sénat, le budget de l'Élysée, le budget de l'Assemblée nationale, il augmente.
C'est une question.
Ils ne sont plus audibles, ils ne sont pas crédibles.
C'est les 20 ans des GG cette semaine.
C'est vraiment pénible.
Et je sens que vous êtes de très très bonnes GG. Je vais proposer vos noms pour la semaine, les copains. Mais vous resterez un peu avec nous dans les grandes gueules du sport. 9h56, on se retrouve dans quelques instants à la suite des grandes gueules du sport. On va parler de Raphaël Nadal. A-t-il raté sa fin de carrière? Vous n'êtes pas d'accord, les GG? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.